Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les personnages de la semaine. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un duo hors du commun. Les frères Lebrun, jeunes, talentueux et audacieux, Alexis et Félix font souffler un vent nouveau sur, eh oui, le tennis de table mondial. Leur parcours fulgurant incarne la relève d'un sport souvent discret, mais où la passion et la précision se conjuguent à chaque échange. Les explications d'Iléana Guillochon.
Et oui, aujourd'hui nous n'avons pas un, mais deux personnages de la semaine, et pour être plus précise, deux champions, et il s'agit des frères Lebrun. Véritables virtuoses de la petite balle blanche, Alexis et Félix, âgés de 22 et 19 ans, sont en train de marquer l'histoire du tennis de table mondial. Et avec leur équipe, ils ont contribué à la victoire de la France au championnat européen de tennis de table ce dimanche 19 octobre. Et voici leur parcours. On a tous déjà joué ou du moins tapé dans une balle de ping-pong. C'est un sport qui est effectivement accessible et ludique. Mais jouer au tennis de table à un niveau professionnel, ce n'est pas qu'un jeu d'adresse. Il faut une technique parfaite, des réflexes fulgurants, une stratégie aiguisée, une condition physique exceptionnelle et un mental à toute épreuve. Pour vous donner une idée de la vitesse, une balle peut filer à 20 ou 30 km/h chez les amateurs, mais chez les pros, elle peut dépasser les 100 km/h, surtout lors des smashs les plus puissants. Et c'est pas étonnant qu'il faille des réflexes d'acier pour suivre le rythme des frères Lebrun. Originaire de Montpellier, dans le sud de la France, chez les Lebrun, le tennis de table est une affaire de famille. Le père Stéphane a été champion de France en double et leur oncle, Christophe Legout, a représenté la France à 3 Jeux Olympiques. Alexis naît en 2003 et Félix en 2006. Dans cette maison, les raquettes se transmettent comme des trophées et très vite, les deux frères semblent destinés à exceller. Et effectivement, si jeune est déjà un sacré palmarès. Dès ses débuts, Alexis Lebrun, l'aîné, impressionne. Champion junior à deux reprises, il entre dans la cour des grands en 2021. Champion de France en double, vice-champion en simple, et il est déjà capable de rivaliser avec la domination des athlètes chinois, et tout ça avec un calme olympien. Puis tout s'accélère, en 2022, il enchaîne les performances. Bat des joueurs du top 100, intègre le top 50 mondial, et décroche le titre de champion de France. L'année suivante, il s'offre même le numéro 1 mondial, Fan Zhendong, avant de s'incliner face à Malong. Et à seulement 22 ans, Alexis Lebrun s'est imposé comme l'un des meilleurs pongistes du monde. Le cadet, Félix Lebrun, suit un parcours tout aussi impressionnant que son aîné. Et c'est le cadet prodige du tennis de table français. Alors très tôt, il s'impose comme un phénomène. Champion de France minime, cadet junior, puis champion d'Europe et du monde en double. Mais c'est chez les seniors qu'il impressionne vraiment. En 2022, il décroche ses premiers titres nationaux et devient le plus jeune médaillé européen de l'histoire du ping. Et l'année suivante, il éclate au grand jour. Vainqueur des Jeux européens, il bat des stars comme Hugo Calderano ou Dimitrij Ovtcharov et remporte son premier titre WTT. À seulement 17 ans, il entre dans le top 10 mondial, devenant le troisième plus jeune joueur de l'histoire à y parvenir. Aujourd'hui, Félix Lebrun est, comme son grand frère Alexis, l'un des visages les plus prometteurs du tennis de table mondial. En effet, sur le circuit mondial, Félix occupe la 5e place et Alexis la 12e place du classement des meilleurs pongistes masculins. Et au-delà des titres et des classements, ce qui impressionne, c'est leur complicité. Bien qu'ils se soient affrontés 6 fois en compétition, les frères Lebrun ne se voient pas comme des rivaux. Au contraire, ils s'encouragent et se poussent mutuellement vers l'excellence, une belle leçon de sport et de respect familial.
Félix qui rigole parce qu'il a essayé de surprendre son frère et il s'est planté là, donc voilà.
Oui, ça l'a pas surpris du tout. Hein.
Et les frères Lebrun se distinguent par des styles de jeu très différents. Alexis, plus puissant et agressif, privilégie un jeu offensif loin de la table. Et Félix, le prodige, mise sur la vitesse et la précision près de la table, utilisant une prise porte-plume rare qui le rend incroyablement agile, faisant de lui un des rares Européens à avoir adopté cette technique.
Il y a beaucoup d'avantages, il y a quelques coups qu'on ne peut pas faire dans la prise orthodoxe et qu'on peut faire en prise porte-plume. Ça donne encore plus d'options techniques, je trouve. Et puis les inconvénients, c'est un peu moins de puissance parce que on n'a que 2 doigts sur la raquette pendant que la prise orthodoxe, ils ont toute la main, ils peuvent mettre les 3 doigts qui rajoutent de la puissance forcément.
Et voilà, 27 ans d'attente enfin récompensés. Et c'est donc en octobre 2025 à Zadar en Croatie que l'équipe de France composée d'Alexis et Félix Lebrun, Simon Gauzy, Flavien Coton, Thibaut Poré et leur entraîneur Nathaël Molin conduisent la France à son 4e titre européen par équipe, le premier depuis 1998 et les frères Lebrun n'étaient même pas nés. Une équipe soudée, talentueuse et combative qui a su se surpasser dans les moments clés, notamment face à l'Allemagne en demi-finale, avant de s'imposer brillamment contre la Roumanie en finale. Alexis Lebrun a lancé les hostilités avec autorité, Félix a enchaîné avec la détermination qu'on lui connaît, et enfin Simon Gauzy, le doyen de cette équipe, a scellé la victoire. 3 matchs, 3 démonstrations et une explosion de joie à la fin, la France est championne d'Europe. Aujourd'hui, c'est tout le ping français qui célèbre cette victoire historique. Une génération dorée vient d'écrire une nouvelle page de son histoire et ce n'est peut-être que le début.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Les yeux de la tête et leur dernière chanson, La Maison des âmes, en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Eh bien aujourd'hui, on va parler de stratégie et de stratégie importante pour nos deux pays, la France et l'Australie, avec Benjamin Galeado. Vous êtes délégué interministériel pour l'approvisionnement des matériaux et des minerais stratégique pour la France. Bonjour déjà.
Oui, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous vos auditeurs et vos auditrices.
Alors tout est dit à peu près dans le titre, mais partie de vos rôles aussi, c'est aussi de garder un peu votre attention sur les nouvelles technologies qui arrivent. Vous regardez pas forcément à 1 an, mais je suppose vous regardez à 5 ans, à 10 ans. Il faut vous tenir au courant de tout ce qui arrive. Parce qu'il y a un impact industriel.
Bien sûr, nous on travaille, on est sur des questions de long terme, hein. On travaille sur des besoins au cours des 20 à 30 prochaines années. Et le cas de toute la transformation liée à la transition énergétique est tout à fait emblématique. Si on regarde un autre exemple dont on n'a pour l'instant pas parlé, qui est le cuivre. Bon. Le cuivre, on va avoir besoin de beaucoup plus de cuivre parce que quand on fait la transition vers l'électricité, hein, moins de gaz, moins de pétrole et plus d'électricité, électricité renouvelable ou nucléaire, électricité décarbonée, ça veut dire qu'on va avoir besoin plus de cuivre. Pourquoi ? Parce que il faut faire des lignes de transport de courant, il faut faire des moteurs électriques et un moteur électrique, c'est essentiellement un bobinage de cuivre. Donc on va avoir besoin de plus de cuivre. On a du cuivre aujourd'hui, il y a des mines, il y a des développements qui sont possibles. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de tension énorme sur l'approvisionnement en cuivre. Mais en revanche, si on se projette à 15 ans ou 20 ans, on sait déjà qu'il y a beaucoup de ressources mondiales, beaucoup de mines dont l'activité va diminuer parce que les gisements vont être épuisés. Et donc, il faut développer de nouveaux gisements de cuivre. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui intéresse l'Australie. L'Australie a encore du potentiel dans le domaine du cuivre. Et donc, comment le développer? Ça va pas se faire en 5 ans, ça va se faire en 10 ans, en 15 ans. Donc, vous voyez, on est vraiment sur du long terme. Et donc, comment établir cette relation stratégique pour aider l'Australie à développer sa ressource de cuivre? Quand je dis l'Australie, c'est le gouvernement australien, le gouvernement de chacun des États, parce que comme vous le savez, en Australie, les compétences minières sont celles des États. Par exemple, Western Australia est un État où il y a énormément d'activités minières. Donc, on travaille avec Western Australia. D'ailleurs, j'étais à Perth en juillet. Mais on travaille aussi avec la Nouvelle-Galles du Sud, avec l'Australie du Sud, avec Victoria, enfin avec l'ensemble des États. Pour voir comment on peut développer ça. Et puis surtout, on travaille aussi beaucoup avec les entreprises, parce que au bout du compte, c'est des entreprises françaises et des entreprises australiennes qui vont faire le travail, les gouvernements étant là pour les aider, pour financer les projets et pour mettre toutes les conditions pour que ces projets se développent.
D'accord. Et il y a aussi un point, sûrement on peut parler d'un des points forts de l'Australie par rapport à d'autres pays, par exemple pour les terres rares, etc., c'est la stabilité politique. Il y a d'autres endroits dans le monde comme le Congo où la stabilité politique est beaucoup plus compliquée. Pour vous, pour la planification, c'est sûrement aussi un atout d'avoir un pays qui est relativement stable politiquement.
Alors, je dirais, il y a deux aspects. Il y a celui que vous indiquez, qui est évidemment très important, et puis il y a le fait que l'Australie est un partenaire stratégique. Les deux choses sont importantes, c'est-à-dire que non seulement un État stable, mais un État sur lequel nous avons des partenariats depuis longtemps, et donc un gouvernement sur lequel on sait que la sécurité d'approvisionnement sera bien garantie. Donc évidemment, ces deux aspects sont extrêmement importants. Et c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, dans nos priorités, on a tout de suite mis l'Australie en haut de la pile, si je puis dire.
D'accord. Et les tensions mondiales, quand on voit les tarifs, quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine et la Russie, etc., ça a forcément mis des tensions sur le marché mondial, tout ça.
Oui, alors les tensions dans le domaine des métaux, elles datent pas d'hier. Hein. Je veux dire, c'est un marché qui est exposé à des cycles, des hauts et des bas, qui peut être exposé aussi à des restrictions. Ou des politiques de chaque État ou de chaque gouvernement. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais il est vrai que les risques ou les contraintes politiques ou géopolitiques augmentent au fur et à mesure, les tensions augmentent. Alors là-dedans, nous, d'abord, ce qu'on essaye de porter comme politique, c'est d'un point de vue général, hein, c'est la coopération. C'est-à-dire qu'on considère que dans ce domaine des minerais et métaux, la coopération est supérieure à la compétition. Et si on regarde l'Australie est un fournisseur, qui fournit un nombre important de pays, en particulier en Asie. Donc je pense que c'est aussi dans l'intérêt de l'Australie que le commerce puisse continuer de manière diversifiée. Et donc nous, le message qu'on porte, c'est oui, il y a des tensions, il faut qu'on s'adapte à ces tensions, mais il faut pas non plus rentrer dans une logique qui serait celle de la guerre commerciale permanente ou des restrictions qui s'ajoutent les unes aux autres. C'est bon pour personne. Les pays producteurs ont besoin de plusieurs fournisseurs et les pays consommateurs ont besoin de plusieurs clients et les pays consommateurs ont besoin de plusieurs fournisseurs. C'est comme ça que ça fonctionne bien. Donc, finalement, oui, il y a ces tensions, mais l'objectif n'est pas de les accentuer, c'est plutôt à travers la coopération, d'abord de développer les ressources, parce que ce dont on a besoin, c'est de développer les nouvelles ressources. Hein, c'est d'abord ça la priorité, et des ressources, il y en a en Australie, il y en a ailleurs d'ailleurs, elles sont disponibles, mais ça demande beaucoup d'investissement pour les développer. Et donc, pour faire ça, il faut aussi créer un cadre qui soit un cadre commercial le plus ouvert possible. Et donc, c'est plutôt ça que nous, on préconise, plutôt qu'un jeu dans lequel chacun serait recroquevillé sur lui-même. Et évidemment, cette politique que j'indique au niveau français, c'est aussi la même politique qui est suivie au niveau européen.
Ouais, je voulais justement y venir là-dessus. Le rôle de la France au sein de l'Europe, ces négociations, ces relations, on peut en dire quoi ?
Alors nous, dans ce domaine-là, on agit évidemment en étroite collaboration et coopération avec l'Europe au sens large. Alors l'Europe, ça veut dire quoi pour vos auditeurs? Parce que ça peut être un concept un peu compliqué. Ça veut dire l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble des 27 pays et avec la Commission européenne qui est l'acteur, mais c'est aussi les autres pays européens, chacun des États membres. Et il y a évidemment dans ce sujet les quelques grands pays industriels européens qui comptent. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Italie en particulier, des pays aussi qui sont des pays de tradition minière importante, la Suède, la Finlande, voilà. Donc oui, on a une stratégie européenne coordonnée. On a le plus souvent, quand il faut développer des projets, évidemment, il vaut mieux le faire avec plusieurs pays. Et puis, de toute façon, les chaînes de valeur, c'est pas des chaînes de valeur françaises, c'est des chaînes de valeur européennes. Si je prends les batteries, les usines de batteries qu'on est en train d'installer en France, bah, elles vont pas servir uniquement à l'industrie automobile française. L'usine, par exemple, ACC, qui est dans le nord de la France, c'est une usine qui est une joint venture entre Stellantis et Mercedes. Donc, cette usine de batteries produira des batteries pour Stellantis et pour Mercedes, et peut-être pour d'autres, d'ailleurs. Donc, vous voyez bien que dans cet exemple, ça n'a pas de sens de raisonner purement franco-français. C'est évidemment, nous, on fait le maximum pour développer un certain nombre de projets en France, mais ces projets, ils servent l'ensemble de la chaîne de valeur européenne. Et à contrario, vous pouvez avoir, par exemple, un industriel qui va faire venir du lithium, qui va subir une première étape de transformation en Allemagne et qui ensuite viendra en France. Donc, vous voyez, ça n'a pas de sens de raisonner là-dessus en franco-français. Et c'est pour ça que, bien sûr, la France joue son rôle. On joue notre rôle dans la relation diplomatique forte qu'on a avec l'Australie. On joue notre rôle dans le fait qu'on est un des grands pays industriels et donc on s'est mobilisé sur ce sujet des minerais et métaux critiques, mais on le fait, j'allais dire, en très étroite coopération avec nos collègues européens. Et c'est d'ailleurs ce que nos partenaires australiens demandent. Eux, c'est important pour eux de voir que l'Europe est unie, et c'est le cas.
Ce qui est intéressant, et juste pour conclure là-dessus, c'est qu'on s'aperçoit, et merci d'avoir éclairci beaucoup de points dans cet entretien, parce que on s'aperçoit que il y a eu un accroc avec les fameux sous-marins et la crise des sous-marins entre la France et l'Australie, mais aujourd'hui ça continue comme ça devrait l'être, et cet accroc, il est presque derrière nous, et la relation entre la France et l'Australie elle est toujours quand même globalement au beau fixe sur plein de points, et notamment sur les matériaux stratégiques.
Non, mais vous savez, la relation entre la France et l'Australie, elle est très forte depuis très longtemps. Enfin, je veux dire, c'est une relation stratégique. La France est une puissance du Pacifique. Hein. On a des territoires français dans le Pacifique. Ne serait-ce que pour cette raison, on est des voisins. On a une relation économique. Beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées. Et donc, évidemment que cette relation, elle est solide. Et dans tous les domaines, et donc on souhaite qu'elle continue à se développer. Et on a un partenariat qui est très fort. Et le cas des minerais critiques en est un exemple. C'est un sujet qui probablement il y a 10 ans ne figurait pas du tout ça figurait pas dans l'agenda franco-australien, parce que l'Australie était surtout tournée vers la fourniture de l'Asie, de ses voisins les plus proches. Mais avec tout ce dont on a discuté aujourd'hui, avec ses nouveaux besoins, l'Australie a le souhait d'avoir une relation avec plusieurs partenaires. Et donc, c'est un nouveau chapitre qu'on a rajouté dans des relations stratégiques. Et c'est un chapitre qui se développe bien, qui prend du temps pour se mettre en œuvre, parce que les sujets miniers, c'est des sujets de longue durée, mais qui a déjà obtenu des résultats très, très importants. Et on a beaucoup parlé des relations industrielles, mais il y a aussi des relations scientifiques. On a, par exemple, des chercheurs français qui viennent travailler dans des universités australiennes, et réciproquement. On a des coopérations entre nos services géologiques. On a des coopérations sur l'innovation, parce que il faut toujours améliorer les techniques. L'industrie minière a encore beaucoup de progrès à faire. Et voyez, donc c'est des choses extrêmement extrêmement denses. Il y a des entreprises françaises qui investissent en Australie. Il y a aussi des entreprises australiennes qui sont intéressées par investir en France. Donc voilà, c'est en effet un exemple de notre relation. Et de ce point de vue-là, j'allais dire, elle devient de plus en plus forte et surtout dans des circonstances compliquées comme celles qu'on peut voir aujourd'hui. Les pays qui partagent des valeurs, qui partagent une certaine manière d'agir, se retrouvent assez naturellement pour travailler ensemble.
Eh bien, merci d'avoir éclairci tout ça pour nous, Monsieur Galezo.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
On savait que c'était fini. On est quand même parti dans des gens loin de Paris. Est-ce qu'on sera plus joli? Se sauver dans les rires, dans la nuit, dans un lit. Ce monde est pas poli. T'étais le seul gars gentil. Poussière sous le tapis, café à refroidi. Amour à refroidi, je crois qu'on s'est tout dit. On s'est pas vu s'affaiblir, c'est facile de se mentir. On se croit toujours solide, jusqu'au jour de la collision. Est-ce qu'il y a des avions qui restent dans le ciel et ne tombent jamais? Est-ce qu'il y a des avions qui traversent la grève et les turbulences? Faudra refaire tous les murs, changer les photos, les peintures, faire une croix sur le futur. À deux, chez moi c'est pas bien rangé.
Marguerite et les avions, chanson de sélection RFI pour ce mois d'octobre. Courte pause et on retrouve Amine Sonko et sa sœur Awa dans quelques instants.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
C'est un projet qui combine musique, danse, projection visuelle, paysage et tout ça. Comment avez-vous combiné, articulé toutes ces disciplines pour nous présenter cette tradition multimillénaire, multicentenaire, millénaire?
C'est l'ouverture artistique, parce que comme je suis ici en Australie, ça fait 20 ans que je vis ici, j'essaie de tout le temps retourner au pays, de vraiment me reconnecter avec la culture. Donc à travers cela, on a créé un partenariat avec le Théâtre National d'Agnès Sorano. Comme Awa le disait, Théâtre National d'Agnès Sorano, pour nous, is a melting pot de toutes les cultures ouest-africaines. À travers Gewol, on est en partenariat avec le Théâtre National d'Agnès Sorano, qui ont actuellement voyagé ici en Australie. Ils ont fait des tournées ici en Australie en 1974. Donc ça fait maintenant 51 ans que le Théâtre National d'Agnès Sorano n'a pas revisité l'Australie. Donc c'est une grande honneur de le faire revenir ici en Australie. Et comme tu viens de dire, pendant 7 ans, j'ai fait des recherches au Sénégal avec la famille. On peut voyager partout au Sénégal pour apprendre avec les aînés, les elders, cette cosmovision. Comment vraiment partager les rituels. Et aussi comment apprendre de créer des protocoles culturels qui vont nous aider à protéger ces savoirs. D'essayer de aussi réécrire notre histoire, d'essayer de décoloniser la façon de partager nos histoires. C'est pas un procès qui peut se passer très vite. Ça prend du temps de vraiment créer cette relation avec les elders, les aînés. Aussi, ça prend du temps de créer ce spectacle entre le Sénégal et l'Australie. On a fait pas mal de voyages entre Sénégal et l'Australie pour essayer de vraiment créer le cast ou le groupe. Et après cela, on a fait beaucoup de workshops et beaucoup de développement. Et aussi, on a invité des autres artistes. Ici à Melbourne, il y a pas mal des artistes audiovisuels qui sont derrière cette production. Et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, d'essayer de faire des workshops et de dessiner comment transformer des symboles africains à travers les projections. Comment vraiment utiliser sound design, d'essayer de enhance les sons que les gens vont sentir quand ils regardent le spectacle. Pour cette journey, pour ce voyage, vraiment ça a pris beaucoup de temps. 7 years in the making, 7 ans. Et in that process, j'ai beaucoup appris comme un artiste comme un directeur artistique, parce que ça prend du temps d'écouter les artistes et aussi d'apprendre à travers eux. Et c'est pour cela que ce projet a pris 7 ans. Dieu merci qu'on va bientôt faire la grande première novembre 12 à Arts House.
Je ne veux pas le couper, mais c'est un perfectionniste. Lamine, c'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, il veut que quand il le montre, depuis tout petit, quand il le montre au papa, ou qu'il soit fier. Et là, il a longtemps travaillé sur ça. Il fait des recherches, parce que ça demande du recherche. Il fait aussi beaucoup de collaboration avec les artistes du Théâtre National Daniel Sorano et aussi des artistes internationaux. Du coup, il y a plein de choses qu'il fait que ça a duré 7 ans. Parce que il y a 2 ans, on a beaucoup répété au Sénégal et je suis très très fière du metteur en scène qu'il est devenu.
Vous avez évoqué donc le Théâtre National du Sénégal. Il y a certains des artistes qui vont d'ailleurs venir en Australie pour la première internationale des QL. Un petit mot sur ces artistes, parce que j'espère que nous aurons l'occasion aussi de les recevoir sur nos antennes, mais un petit mot sur ces artistes et aussi leur apport à ce projet exceptionnel.
Oui, les artistes qui vont venir du Sénégal, on a Dixen. Dixen est un grand artiste serrure qui joue le riti. Le riti, c'est un violon traditionnel qui est vraiment très cool instrument. Ndik est vraiment connu dans le monde serrure, qui est un gardien de la savoir des esprits serrure. Et aussi, on a Aziz Ngom. Aziz Ngom est un grand master percussionniste qui joue le sabar. Il est un master du sabar droit, mais aussi il est très connu sur le monde des rythmes rituels ndop. Ndop, c'est un rituel, comment le dire en français, ndop, c'est well-being.
Oui, c'est les danses rituelles. Quand on est en transe, qu'on est, on est possédé par un esprit ou un, voilà.
That's right. So, Aziz est un batteur de ndop et il est vraiment très fort. Et aussi, on a Amin Tassar. Amin Tassar fait l'une des très grandes danseuses du Théâtre National Daniel Sorano. Il fait partie du Ballet National La Linger comme one of the lead dancers. Also, on a Awa Koulibaly. Elle a une background mandingue. Elle partage la danse mandingue du Mali. Elle a beaucoup travaillé et aussi beaucoup voyagé avec le Théâtre National du Sénégal. Donc, il y a 4 artistes qui vont nous rejoindre ici à Melbourne pour cette grande première. Et aussi, il y a Awa, qui est the lead dancer. Avec Awa, ces 4 artistes, on sera une très grande team pour cette grande première.
D'accord. Et alors, vous allez danser aussi pour nous montrer un peu votre talent en sabar.
Yes.
Oui, avec plaisir. oui, non, avec plaisir.
On a hâte de voir cette première. Il y a aussi le projet d'une grande conférence à l'Université de Melbourne. Dites-nous un mot ou deux sur tout ce, parce que c'est pas seulement cette première, mais il y a aussi toute une série de spectacles et d'événements autour de ça, notamment cette grande conférence, Lamine. Parlez-nous de ça aussi.
Quand les artistes seront ici pour cette grande première, on a aussi des workshops et on a aussi des conférences académiques. Ce que tu viens de dire, c'est un grand symposium qui aura lieu le 29 octobre à l'Université de Melbourne. Et avec cet symposium, on va avoir des dialogues à travers, Indigenous African Ways of Knowing. Ce sera des dialogues académiques sur cela et aussi des dialogues artistiques. Donc, il y aura des spectacles et aussi il y aura des panélistes, des académiciens qui vont vraiment présenter leurs recherches sur les problèmes socio-culturels qui se passent en Afrique. Donc, on va parler de l'économie africaine, on va aussi parler de la culture africaine, on va aussi parler the complex situation of globalization and internationalization dans ce symposium. Et aussi, il y aura des autres workshops avec des First Nation artists ici en Australie. Donc, on est en train de vraiment connecter la savoir ancienne africaine et aussi la savoir ancienne des aborigènes d'Australie pour vraiment faire connecter les deux pays.
Enfin, Goël, première mondiale dans quelques jours, et après cela, qu'est-ce qu'il y a comme vision pour ce projet exceptionnel?
On va faire la grande première ici en Australie et après on veut faire tourner Gewell internationally et on peut aussi, on va faire retourner Gewell au Sénégal pour le partager avec le public sénégalais. Et aussi il y a beaucoup d'autres projets qui sont liés avec Gewell. On va faire sortir nos recherches sur des livres pour vraiment, comme ça les gens peuvent lire un petit peu sur la recherche. Et aussi, on est en train de collaborer avec AWA pour voir comment on peut ouvrir des centres de danse pour vraiment apprendre les gens comment se reconnecter avec cette cosmovision. Et aussi, on est en train de produire un autre film pour vraiment montrer d'autres phases de cette savoir et de ces mémoires de nos ancêtres.
Parce que là, il est humble, il va pas tout vous dire. Le côté girl, il l'a pris du côté de la maman, l'héritage de la mère. Mais maintenant, il fait aussi des recherches du côté du papa. Parce que l'héritage aussi est aussi riche.
Avant de nous quitter, un mot de la fin à vous deux, un ou deux mots pour nos auditeurs.
Merci en tout cas pour l'invitation. Merci aux frérots de me faire partager ces expériences et aussi merci à vous, les éditeurs.
Merci Bertrand, vraiment comme d'habitude. Frère, merci beaucoup et merci à SBS pour cette opportunité de vraiment partager nos projets et aussi d'inviter vos audiences de venir expérimenter, expérimenter la culture africaine. Donc merci beaucoup Bertrand.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
La Tirmoso. Maylen konanda robe ale. La tiru warendoi, mailen konanda robe ale.
Ya
La superbe sonorité de Lamine Sonko et sa chanson Tamo. Courte pause et on continue le programme avec la deuxième partie de notre archive de 2010 avec Mia Hansen Love. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
On voit un homme qui, au fur et à mesure qu'il se fuit, comme il commence à fuir ses responsabilités, parce que ses responsabilités deviennent de moins en moins solubles, qu'il est acculé au désespoir. Et là, intervient une sorte de glissement. Le personnage qui volait d'un stress à l'autre, d'une activité à l'autre, qui semblait pouvoir répondre au téléphone tout en conduisant sa voiture, on sait que certaines personnes le font, que le téléphone est en permanence à son oreille, qu'il est en train de régler des choses les plus banales aux choses de vision, etc. On se rend compte d'une chose, qu'il se détache d'une certaine réalité, d'une certaine santé mentale aussi.
Oui, c'est une chose qui, d'ailleurs, pour moi, et c'est tout à fait, hein, je ressens les choses exactement comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment un glissement extrêmement progressif, mais il y a un moment où ce détachement dont vous parlez, cette manière de finalement devenir absent à soi-même, apparaît pour moi d'une manière bouleversante, et je dis bouleversante non pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais parce que la manière dont l'acteur l'a interprété, vraiment, à chaque fois que je revois ce passage, ça continue de m'émouvoir. Alors, c'est une petite scène qui paraît anodine, c'est la dernière fois qu'il vient au bureau, qu'on va le voir aller au bureau, et en fait, il est dans sa voiture et il passe un coup de fil complètement prosaïque à propos d'une commission, d'un dossier à rendre ou je sais plus quoi. Et en fait, j'avais demandé à l'acteur d'essayer de le jouer comme ça en étant complètement absent, en même temps comme quelqu'un qui fait son travail jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'au bout, il va pas lâcher son espèce de sens du devoir aigu et donc il va passer les coups de fil des choses urgentes à faire jusqu'au dernier moment, mais en même temps en étant complètement ailleurs. Et je trouve que le comédien a réussi à l'interpréter avec une vérité incroyable qui fait qu'à chaque fois que je vois la scène, ça m'émeut. Voilà.
Et c'est un comédien extraordinaire.
Oui, je pense que c'est vraiment un grand comédien qui avait pas eu la chance, qu'on a beaucoup vu au théâtre, mais qui n'est pas très connu au cinéma en France, même, enfin, qui ne l'était en tout cas pas du tout, même si on l'avait vu dans des petits rôles dans des films. Donc c'est vraiment un grand comédien et qui avait vraiment cette prestance aristocratique, ce charisme et ce possible rayonnement qui était pour moi essentiel pour le rôle. Et j'ai eu aucune seconde d'hésitation en le choisissant parce que pour moi, il était littéralement le seul comédien qui avait ces qualités-là. Je trouvais qu'il y avait une vérité de lui pour ce personnage que j'aurais pas pu trouver chez aucun autre acteur. Et par ailleurs, j'aurais pas imaginé prendre quelqu'un de connu pour ce rôle qui était celui de quelqu'un de l'ombre.
Oui, c'est un homme de l'ombre et c'est un homme aussi qui génère beaucoup d'affection. Il y a des engueulades, bien sûr, parce qu'on est dans le monde du cinéma et puis tout le monde est dans le stress, mais il y a une incroyable loyauté de la part de ses collègues, qui sont devenus des amis d'ailleurs, ou presque une famille élargie. Et il y a un véritable sentiment affectif vis-à-vis de cet homme de la part de ses compagnons de travail.
C'est vrai que c'est ce que lui dit son ami producteur quand il le raccompagne après le restaurant. Il lui dit « Tout le monde t'admire, mais personne ne t'aide ».
Oui.
Et puis l'autre lui répond d'un ton vexé « J'ai pas besoin d'aide », qui est pour moi vraiment la phrase qui...
Qui montre à quel point il est... Voilà.
Mais c'est vrai qu'il y a autour de lui, il y a beaucoup d'admiration. C'est vraiment quelqu'un qui est au centre d'un monde, quoi, qui a construit un monde dont, pour lequel il est complètement indispensable. Et pour moi, le mot père du titre, voilà, je fais aussi allusion à ça, pas seulement à la mais à tous les cinéastes pour qui il est une sorte de père spirituel et qui va laisser orphelin après qu'il ait disparu.
Ben, vous avez parlé orphelin. Il se passe quelque chose et puis c'est comme si l'histoire était scindée en deux parties. Et on sent, alors on a vu le naturel, presque la vie de tous les jours, les enfants tout à fait naturels quand ils s'accrochent à leur père ou ils rouspètent ou ils posent des questions, une famille qui est en mouvement elle aussi, que ce soit dans sa promenade campagnarde, des choses tout à fait, on pourrait dire même banales. Et puis quand on passe ce cap, il y a une fragilité, la disparition.
Oui, c'est vrai qu'il y a deux temps dans le film. Ce que j'ai essayé de filmer dans la deuxième partie, c'était à la fois l'absence, enfin le vide laissé par cette absence et de confronter tous mes personnages à ce vide et de voir comment eux-mêmes vont le remplir d'une certaine manière. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de filmer. C'est une des choses que je trouve les plus excitantes à filmer au cinéma, parce que pour moi, le cinéma a vraiment à voir avec, à la fois avec la mémoire, mais aussi avec, avec les fantômes. Enfin, il y a quelque chose qui a rapport avec ça dans le cinéma, puisque sur un écran, on a toujours un peu... Enfin, j'ai toujours un peu l'impression de voir des fantômes, et du coup, confronter le cinéma à une question qui est elle-même une question de fantômes est pour moi doublement... Voilà, intéressant. Mais donc, ce que j'essayais de filmer, c'était à la fois la manière de, pour chacun de combler ce vide, mais aussi, c'est ce qui revient après au même, mais aussi comment cette personne, même quand elle n'est plus là, reste présente, et de quelle manière elle reste vivante en n'étant plus là. Et ça se pose à la fois pour la famille, mais aussi pour la société de production, parce que pour moi, ce film raconte vraiment les derniers jours d'une société de production. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir, d'essayer de filmer de quelle manière une âme survit, quoi.
Oui, et on a cette impression, et au fur et à mesure qu'on prend conscience du vide qu'il laisse derrière lui, aussi bien parmi ses collègues que dans sa propre famille, et que l'histoire progresse pour révéler le secret de famille.
Oui, c'est-à-dire que le film tend à vraiment à toucher à cette question-là de manière de plus en plus explicite, d'une certaine manière. Et il y a certains détours dans la deuxième partie. On n'amène pas tout de suite à cette question, mais au fond, à la fin du film, si le film est compris comme j'aimerais qu'il le soit, on doit arriver vraiment à ce point crucial où la question de la survie de l'âme se pose et ne fait plus qu'une seule question. C'est-à-dire dans les bureaux de la production, quand les enfants vont pour la première fois dans les bureaux, enfin en tout cas c'est la première scène où on les voit aller, pour moi les deux mondes se réunissent, c'est-à-dire le monde de ses films, c'est-à-dire son œuvre, son travail, ce qu'il a créé, et puis sa famille, et finalement ces deux mondes se réunissent de telle sorte que cette question est posée de manière explicite, littérale, par la femme et les enfants, à savoir à travers quoi l'âme de papa survit-elle, à travers ses films ou bien à travers nous. Et finalement, pour moi, le film voulait en venir là, et c'était vraiment ça l'objet du film, cette question-là.
La question reste, parce que il survit et par la famille et par les films qu'il laisse derrière lui et tous ses projets en souffrance.
Oui, c'est ma conviction, et même pour aller plus loin, même si ça peut paraître naïf, et ça l'est peut-être, mais en tout cas quand j'ai écrit le film, j'avais la conviction que le film même, par son existence, serait la preuve...
Qu'il continuait dans d'autres médias, presque.
Oui, oui.
À une troisième dimension.
Ils peuvent survivre à travers d'autres gens qui portent en eux quelque chose de la personne disparue.
Nous, spectateurs, nous sommes encore une autre dimension qui amenons ce film avec nous, qui nous posons certaines questions, qui voyons peut-être, qui posons un autre regard sur certaines choses. Au lieu de cette image factice du cinéma, non seulement factice, mais bien souvent très superficielle, on a l'impression que, à la base, il y a cette brassée d'énergie, de projets, des personnes qui vivent pour ces projets, et puis des gens qui travaillent. Il n'y a pas beaucoup de glamour dans cette partie-là. C'est une question de pouvoir financer des projets, oui. Des visions, oui. Des textes.
C'était totalement volontaire de ma part d'éviter tout le côté glamour qu'on a tellement vu, voilà, les acteurs, les projecteurs, les mondanités, ces choses que je trouve au fond très superficielles et pas tellement révélatrices de ce qu'est vraiment le cinéma, alors que moi, ce qui m'émerveille dans ce monde-là, c'est la capacité de collectivement créer des œuvres, quoi. C'est quand même une chose qui est assez unique, et c'est aussi de ça que j'essayais de parler avec ce film.
C'est unique et les œuvres survivent.
Oui.
En général, quand ce sont des œuvres, quand ce sont des travaux assez ordinaires ou des films assez ordinaires,
oui.
Eh bien, passe au rencard très très vite. Il y a une très belle phrase, il avait besoin de sentir qu'il pouvait dire oui ou non.
Oui.
Donc, on parle aussi de liberté.
Oui, bien sûr, c'est un aspect du film, ça c'est une phrase prononcée par sa femme, parce que... Là, c'est difficile de parler de ça sans évoquer ce qui se passe dans le film, mais en tout cas, certaines actions dont on peut se demander si c'est des preuves d'aliénation ou des preuves de liberté. Et pour moi, la question reste en suspens et je peux pas dire que le film y réponde complètement, parce que en partant, le producteur part avec son secret.
Et on dit, Malraux disait, enfin, il le disait par l'un de ses personnages, on ne connaît jamais un être. Il y a toute cette partie de mystère qui reste.
J'ai voulu que ça reste mystérieux, non pas pour éviter, esquiver la question. J'ai essayé de m'y confronter si bien que c'était possible pour moi, mais pour moi, il y a quand même une part d'énigme, de mystère. C'est là justement où se joue la liberté du personnage et l'enjeu du film. Enfin, c'était pour moi très important que le film ne donne pas le sentiment de résoudre, de donner la clé de l'énigme. Quoi, il suggère des pistes. Il y a forcément une part de l'interprétation dans le fait même, la manière dont le film est construit, mais en tout cas, je tenais à essayer de dire que voilà, que ce personnage et ses raisons continuent de nous échapper, et c'est aussi pour ça que j'ai filmé cette scène au milieu du film dans laquelle on le voit brûler des lettres et on ne sait pas ce qu'il y a dans les lettres, et c'est une question que me pose très souvent le public quand j'ai présenté le film en province, etc., à l'étranger, c'est mais qu'est-ce qui brûle, comme si
eux une partie de sa vie,
ce que moi je sais, alors en fait c'est volontaire qu'on ne le sache pas, quoi.
Et c'est intéressant ces deux tendances qu'on veut savoir, et pourtant, en ne sachant pas, ça reste chez nous, ça reste avec nous, on l'emporte avec nous, ça reflète nos propres mystères.
Oui, c'est tout à fait, c'est bien dans ce sens-là que je l'ai compris aussi.
Alors, Mia Hansen-Løve, pour revenir à le père de mes enfants, est-ce que le film a été accueilli comme vous le vouliez ?
Le film a été accueilli, à vrai dire, bien au-delà de ce que j'imaginais, en tout cas à l'étranger, parce que en France, il a été très très bien accueilli, mais je veux dire, les entrées, c'était bien entendu, c'était plutôt modeste. Enfin, ça s'est très bien passé, mais ça reste tout à fait modeste. Mais ce qui a été incroyable sur le film, c'est la manière dont il s'est vendu partout dans le monde. Bon, c'était pas du tout le cas de mon premier film, et c'est une chose, j'arrive complètement à m'habituer encore à l'idée, même 2 ans après, que ce film se sort en Australie, qui sort au Japon, qui sort si loin de chez moi, parce que d'autant plus que quand on a fait le film, on a eu beaucoup de mal à le financer, beaucoup de gens n'y croyaient pas et pensaient que c'était une histoire trop française pour se sortir, et que ça concernait le fait que cela concerne le cinéma, ils pensaient que ce serait pas universel, ce qui était pour moi vraiment irritant, parce que cette idée que le cinéma soit moins universel que le reste, je la trouvais absurde. Je pense que le cinéma n'est pas plus universel que le reste, mais c'est quand même tout à fait universel, je pense. Mais en tout cas, comme on a eu beaucoup de mal à le financer et qu'on a été confronté à beaucoup de méfiance, voire d'hostilité à l'égard de ce sujet, fait que le film ait pu sortir dans tant de pays partout dans le monde, et pour moi une chose extrêmement gratifiante. Voilà.
Oui, ce qui veut dire qu'il parle à tout le monde et que c'est universel, c'est une portée universelle.
J'en ai pas la certitude, mais c'est, ça me donne cet espoir.
Ça vous donne cet espoir. Un dernier mot, Mia Hansen-Løve, le projet maintenant qui vous concerne et qui vous absorbe.
Je tourne dans 10 jours mon prochain film. Ça s'appelle Un amour de jeunesse. C'est une histoire d'amour donc qui se passe pendant qui s'étale sur 7 ans entre 2 jeunes gens. Voilà.
Merci pour cette interview. Merci pour ce film.
Merci beaucoup. Merci à vous.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
Le son d'Amadou et Mariam, et cette chanson Son de Faux en ce dimanche sur Radio SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS En Demande, sbs.com.au/en-demande. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi. Thank you.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.